Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yes!
Go ahead. Goal line. Touchdown.
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 Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission draft de Touchdown Actu, une 476e mouture placée sous le signe de la ligne offensive et des linemen intérieurs. Quels sont les meilleurs gardes ou centres de cette classe 2022 qui est plutôt actif ou passif? Quel potentiel sleeper peut tirer son épingle du jeu? Tant de questions posées aujourd'hui en compagnie de mon camarade Jean-Michel Boujard. Salut Jean-Mi.
Hey, salut Greg, bonjour tout le monde.
Toujours un plaisir de te retrouver. Un petit détour draft dans ce week-end qui s'annonce très animé. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que les playoffs sont enfin là. Et si vous avez envie de partager ces grands matchs avec d'autres fans de la NFL, c'est au Hard Rock Café Paris que ça se passe. Chaque dimanche, vous avez rendez-vous dans le salon VIP. La carte Happy Hour est à vous pour toute la soirée avec bien sûr des grands matchs au programme. Et ce dimanche, ce sera dès 19h. Vous pourrez suivre d'ailleurs le match entre les Tampa Bay Buccaneers et les Philadelphia Eagles. On revient au programme de la draft et des prospects universitaires qui nous intéressent tout particulièrement. Jean-Mi, on a déjà brossé pas mal de postes et on est dans une phase extrêmement décisive désormais de la draft, puisque la deadline pour les inscriptions, c'est donc le 17 janvier, en l'occurrence ce lundi. Donc avec une période de rétractation qui est autorisée, mais en tout cas, on connaîtra les candidats officiels en vue de la prochaine draft, maximum en fin de semaine prochaine. Donc là, on va commencer vraiment à rentrer dans le dur avec tout ce qui va être senior bowl, préparation au combine, etc. etc. Donc, on finit de détailler certains postes importants et là, on s'intéresse au lineman intérieur. Si on s'autorise une petite phrase de présentation, on avait parlé rapidement à l'occasion du Power Ranking il y a désormais quelques mois de ça. On n'est pas sur une classe hyper glamour, mais en tout cas, ça reste assez dense avec quelques favoris qui se détachent quand même assez nettement.
Ah oui, 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 cette année, on pourrait en avoir deux dans le top 15 de la draft. Donc, c'est quand même assez rare pour des joueurs de cette position-là. Donc, du coup, oui, très belle cuvée à son sommet.
Alors, si tu veux, on va commencer donc par les deux favoris, justement, les deux fameux prétendants, ne serait-ce qu'au top 15, hein, puisqu'après, on reste dans une classe assez homogène. Donc, il y aura peut-être des candidats qui grimperont un peu plus encore. On va commencer par Kenyon Green. Garde de Texas A&M, recrue importante hein, à sa sortie du lycée, je crois, recrue 4 étoiles de mémoire, qui était recruté en tant que tackle à l'époque. Il a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui dans un rôle plutôt intérieur du côté de Texas A&M. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu as vu de Kenyon Green du côté de College Station?
Mais déjà, tu vois, en fait, c'était même une recrue 5 étoiles.
Oui, c'est vrai, tu as raison.
Et c'était la recrue numéro 1 du Texas. Et ça, rien que ça, quand on connaît le réservoir qu'est le Texas pour les joueurs de football, déjà, ça veut dire quelque chose. Je vais donner un petit exemple vite fait, ça va parler à tout le monde. En 2019, il est le numéro 1 du Texas et il est devant DeMarvin Leal, le defensive tackle de Texas A&M, qui lui aussi sort un premier tour, et devant le receveur Garrett Wilson, qui a tout explosé avec Ohio State. Et Kenyon Green, c'était le numéro 1. Voilà, recrue 5 étoiles du Texas. Déjà, voilà, ça veut tout dire, le gars. Moi, qu'est-ce que j'aime chez lui? Ben, tout, en fait. Tout. J'adore ce joueur. Il est massif, il est puissant, il a des qualités athlétiques, il est bon en run block, il est bon en protection, il sait vraiment tout faire. Et puis, en plus, il est tellement bon que Texas A&M, qui a eu un petit peu des problèmes sur la ligne offensive cette année, ben, l'a utilisé d'abord comme guard parce que c'est vraiment son véritable poste et c'est celui-là qu'il occupera en NFL, je pense. Mais il a aussi joué tackle gauche, il a aussi joué tackle droit, enfin, il a joué de partout. De toute façon, c'était le meilleur lineman offensif. Donc, dès qu'ils avaient vraiment un besoin, ils l'ont baladé. Et puis, en plus, eh ben, il a les fameuses mains violentes parce que lui, c'est incroyable. Je veux dire, quand il décroche en situation de course sur le second rideau, en fait, il n'écarte pas les linebackers, il les écartèle. C'est un massacre, c'est un massacre. Voilà, c'est un joueur vraiment exceptionnel que moi j'aime beaucoup. En plus, une stat intéressante, il a raté aucun match en 3 saisons, aucun. Bon, hormis le bowl game de cette année, mais parce qu'il a renoncé pour se préparer à la draft. Mais sinon, voilà, aucune blessure. Et ça aussi, c'est précieux pour la NFL. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se blesser, évidemment, tout le monde peut se blesser. Mais déjà, il arrive avec un casier vierge. Donc, le gars, il a tout. Course, protection, intelligence de jeu. Ouais, pour moi, franchement, il vaut même un top 10 de la draft. Je ne serais pas choqué s'il était pris dans le top 10.
Écoute, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais c'est vrai qu'il y a différents aspects par lesquels, à titre personnel, j'analyse des linemen, notamment en l'occurrence des linemen intérieurs. C'est en effet, tu l'as dit, déjà la capacité à être sur un poste unique ou être plutôt polyvalent. En l'occurrence, Kenyon Green a plus ou moins fait les deux, parce qu'il est capable, en effet, tu l'as dit, de jouer à différentes positions. Je crois qu'il n'y a que centre où il n'a pas joué du côté de AM, mais en l'occurrence, quand il faut jouer tackle ou garde, et majoritairement garde ces derniers mois du côté du Texas, il a donné pleine satisfaction. Donc, il arrive quand même avec une certaine expérience sur un poste bien précis. Le deuxième aspect important, et tu en as parlé, c'est qu'il est bon sur la course, mais aussi sur le pass pro. Parce que AIM avait cette capacité à avoir un jeu extrêmement varié. On a vu que dans les deux domaines, Kenyon Green s'en sortait extrêmement bien. Et puis, le dernier aspect important, c'est en l'occurrence le côté technique, physique, athlétique. Et ça fait partie d'un des rares joueurs dont on va parler aujourd'hui qui combine les trois très clairement. Et voilà, après, peut-être optimiser encore une fois en fonction du système dans lequel on l'emploiera. Mais concrètement, il y a une telle versatilité et une capacité d'adaptation à l'équipe qui va le récupérer que je te rejoins totalement. C'est uniquement le fait de ne pas être un tackle sur le papier qui le discrédite aux yeux des scouts, à mon sens, hein, même si la draft n'a pas encore eu lieu. Mais c'est sûr que ça fait peut-être un peu moins rêver. Après, on se rappelle d'un Quentin Nelson qui a été drafté numéro 5 ou 6 de mémoire. Je crois que c'était numéro 6 à l'époque. Donc, sans forcément monter aussi haut que ça, parce que Quentin Nelson, je trouve, avait vraiment une maturité encore plus importante quand il arrivait en NFL. Mais oui, très clairement, on est aux portes du top 10. Je te rejoins largement là-dessus. Ouais.
Ah, mais Nelson, c'était 6. Mais tu vois, par exemple, quand on voit les Giants, ils ont le choix 5 et le choix 7. Je veux dire, moi, en 7, s'ils prennent Kenyon Green, je ne serais pas choqué. Mm-hmm. Oh, bien sûr, ils auraient besoin aussi d'un tackle droit, etc. Mais ils ont besoin aussi à l'intérieur. Et Kenyon Green, mais il est tellement monstrueux, c'est incroyable. Je veux dire, admettons, tu prends Kenyon Green, tu le mets en garde gauche, il fera un duo avec Andrew Thomas qui est exceptionnel. Voilà, là, du coup, il serait vraiment protégé. Si jamais tu le prends et tu le mets plutôt en garde droit, eh ben, du coup, ben, tu as Thomas à gauche et puis tu as Green à droite et ta ligne offensive, elle est aussi super solide. Donc, même si ce n'est pas un tackle, mais moi, je trouve qu'il vaut largement un top 10 et pourquoi pas même donc le choix numéro 7 des Giants. Hein.
Oui, et encore une fois, un garde qui veut jouer tackle dans une NFL moderne où c'est extrêmement important d'avoir de la profondeur sur les lignes et de pouvoir trouver des solutions de rechange en cas de blessure, franchement, c'est très, très loin d'être un problème d'avoir ce type de joueur. Bon, on a tout dit, je pense, à peu près sur Kenyon Green. Encore une fois, on n'a pas été très original, mais très originaux, en l'occurrence, parce qu'on est deux. Mais ouais, c'est vrai que joueur extrêmement complet et son processus draft va être très, très intriguant à suivre. Je pense que c'est ce qui va déterminer, encore une fois, où il se trouve, si c'est plutôt milieu de draft, plutôt vers top 8, top 10. Je pense que le combine va jouer un très, très grand rôle là-dedans, en l'occurrence. On passe au deuxième joueur, Tyler Linderbaum, centre d'Iowa, qui lui, en l'occurrence, alors, est plus resté sur un rôle unique du côté des Hawkeyes. Mais en l'occurrence, là aussi, c'est pareil, on a un panel qui reste relativement varié en termes d'aptitude à être performant sur la ligne.
Oui, c'est ça, exactement. Lui, c'est vraiment l'homme du milieu. Déjà, il a été recruté par Iowa pour jouer défensif tackle, donc déjà au milieu de la ligne défensive. Mais en fait, très très vite, il a rebasculé du côté offensif du ballon, puis il a joué centre, et puis voilà, il a été super performant en centre. Super performant. Alors déjà, ce n'est pas du tout le même gabarit que Kenyon Green, il est beaucoup plus léger, mais du coup, il est très athlétique, il est très rapide, il est très bon en protection, puisqu'il est vif dans les petits espaces. Mais il est bon aussi en round block, parce que bon, c'est quand même un sacré athlète. Le gars, je veux dire, c'était un lanceur en athlétisme, mais c'était un lutteur aussi au lycée. Mmh. Et ce côté lutteur, c'est très, très intéressant quand on met rapport avec les duels dans les tranchées au football. Et d'ailleurs, je me souviens, j'avais vu passer une vidéo de lui en lutte où il mettait au sol Tristan Wirfs, le tackle des Buccaneers, qui pourtant est un mouse costaud, vraiment. Et ben, Linderbaum, en lutte, il l'avait mis au sol. Et donc voilà, j'insiste, mais c'est deux sports différents, mais la lutte quand même, ça se rapproche un petit peu de ce que tu vas avoir dans les duels des tranchées, quoi. Je veux dire, face à un défensif tackle, eh ben voilà, il va être au combat, il va être au duel, et il est très très bon là-dedans. Et puis ensuite, ben voilà, comme il est plutôt léger, enfin léger, tout est relatif évidemment, mais c'est un gabarit plutôt explosif. Donc du coup, il est très bon avec son premier pas. Il est également très bon lorsqu'il faut décrocher en situation de course. C'est-à-dire que lui, donc c'est un centre, ce qui veut dire que quand il engage le ballon, il n'a pas toujours un adversaire direct face à lui. Ça arrive, mais pas toujours. Et donc du coup, il a vraiment cette liberté, une fois qu'il voit la brèche, eh ben de quasiment faire le rôle d'un fullback, c'est-à-dire que le coureur va courir derrière lui et puis lui, ben, il va aplatir un linebacker qui se présente et puis ça permet au coureur de gagner encore quelques yards supplémentaires. Et là-dessus, il est vraiment très très bon. Après, évidemment, ça ne correspondra pas forcément à tous les systèmes en raison de son gabarit. On le voit, quelqu'un comme Jason Kelce, par exemple, il a réussi une superbe carrière avec les Eagles et il continue d'ailleurs. Mais c'est des gabarits quand même un petit peu rares. Donc forcément, y a, pas toutes les équipes seront séduites par ce joueur. Mais l'un dans l'autre, il a vraiment tout. Et lui aussi, il vaut largement, je pense, un premier tour de la draft.
Oui, très clairement. C'est vrai que ce qui saute le plus aux yeux, en effet, et t'en parlais, c'est l'agressivité qu'il démontre sur le côté décrocheur. Là, clairement, en termes de face active, je pense que voilà, Linderbaum se place là. On voit sur certaines actions, c'est vraiment un bulldozer. Et c'est aussi amplifié par le fait qu'Iowa, malgré tout, est une équipe qui court massivement, qui n'est pas réputée pour son jeu à la passe. Mais c'est vrai qu'on l'a vu, de par, en effet, cette mobilité qu'il a. Et puis aussi une technique également qui est vraiment développée également du côté d'Iowa. Au niveau des linemen offensifs, tu parlais de Tristan Wirfs tout à l'heure, mais il y en a eu une pelletée avant sortie d'Iowa et qu'on a déjà démontré une technique. Ça fait partie de ces facs comme Notre-Dame ou Iowa, comme Notre-Dame en effet, ou du côté d'Iowa, on sait à peu près qu'on va avoir un joueur aguerri dans ce domaine-là. Et on a en effet vu que Linderbaum, avec les problématiques que tu évoquais, notamment les problématiques, on va dire, physiques, en tout cas purement gabarit, il était quand même capable de se débrouiller sur du pass pro. Donc c'est vrai que il va pas être dévalué à mon sens uniquement par le côté je ne sais faire que du jeu à la course. Voilà, on pourra peut-être pas forcément le mettre partout, il peut pas être pleinement performant dans tous les systèmes, mais en tout cas tu sais que dans un système court massivement, ça peut être une machine et un joueur vraiment très très difficile à bouger, à secouer. Donc très franchement, là aussi c'est Il y a un profil qui fait que forcément, ça ferme quelques portes par rapport à Kenyon Green. Mais là, on est sur du top 15 ou du top 20. Je crois qu'il s'est blessé lors du bowl qu'il a disputé avec Iowa. En plus de mémoire, il faudra suivre éventuellement l'évolution de ce petit pépin. Mais dans les faits, oui, je vois clairement pas à l'heure actuelle ce qui pourrait empêcher Linderbaum d'avoir un statut, ne serait-ce que premier tour.
Oui. Et puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est ce joueur, c'est que lorsque la saison 2020 s'est terminée, on parlait déjà de Linderbaum comme d'un top joueur à sa position et d'un futur premier tour. Et cette année, il a confirmé. Donc, c'est toujours très bien lorsqu'un joueur confirme. Ça montre son sérieux, ça montre qu'il est travailleur. Et ça montre aussi que forcément, lorsque les équipes en 2021 ont affronté Iowa, les coordinateurs défensifs savaient très bien que Linderbaum était très bon. Donc, du coup, il y avait forcément un plan. Alors, je ne vais pas dire un plan contre lui, ce n'est pas un quarterback non plus, mais ils en tenaient compte forcément. Et il a quand même tiré son épingle du jeu, et largement. Donc, du coup, même s'il est surveillé par les adversaires, même si, etc., etc., il s'en sort quand même. Donc, ça veut dire qu'il est travailleur, ça veut dire qu'il a vraiment beaucoup de talent. Et voilà, donc c'est vraiment un joueur qui fera une belle carrière en NFL.
On passe à présent au tiers 2 de cette classe de l'année.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Et lumière sur un tout récent champion national, Jean-Mi, puisqu'on va parler de Jamari Sawyer, lineman de Georgia. Alors, j'hésite un petit peu avec le terme, parce que forcément, on parle de joueurs qui risquent de jouer sur l'intérieur de la ligne. On va le dire tout de suite, Jamari Sawyer, c'est un joueur qui a joué quasi exclusivement ces derniers mois du côté du poste de tackle gauche chez les Bulldogs. Maintenant, il y a peut-être un gabarit, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Linderbaum, qui va peut-être le desservir en NFL et qui nous amène à en parler dans l'émission d'aujourd'hui.
Oui. Alors, un gabarit qui peut le desservir si on le projette comme tackle, voilà. Mais comme guard, moi, je trouve qu'il a vraiment le gabarit parfait, voilà. Il a la taille qu'il faut, le physique qu'il faut, il est compact, il a vraiment tout, quoi. Et donc, du coup, en run block, il est vraiment très, très bon. Comme tu l'as dit, il a passé la majeure partie de la saison à jouer tackle gauche, mais c'était plus parce que Georgian avait besoin. Voilà, leur tackle recrue 5 étoiles, Broderick Jones, a mis un petit peu de temps à se développer. Là, il était un peu prêt, donc il a joué tackle gauche. Et Sawyer a retrouvé son meilleur poste, qui est celui de guard. Et c'est là vraiment qu'il est très, très bon. Et puis, tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure avec Kenyon Green. Ben, c'est très précieux d'avoir un guard comme Sawyer, parce que moi, j'en parle vraiment comme d'un guard. Mais toute cette expérience qu'il a en tant que tackle, parce qu'à Georgia, il a joué aussi tackle droit, donc il a joué la majeure partie de la saison 2021 tackle gauche. Donc voilà, tu as un guard qui va être très bon en tant que guard. Et si jamais tu as un problème de blessure, eh ben, il n'y a pas de problème. Tu pourras le rebasculer en tackle pour 2, 3, 4 matchs. Si vraiment tu as un souci, il pourra aussi te dépanner. Donc ça, c'est également une force. Après, ce n'est pas le plus mobile des joueurs. Alors, il est athlétique, hein, ce n'est pas une statue du tout. Mais en NFL, quand tu joues guard, forcément, tu affrontes des joueurs comme Aaron Donald, comme Chris Jones. Donc, il faut être capable de se rediriger très rapidement. Parce que,
oui, c'est si... plus la mobilité latérale qui pose problème et qui le discrédite, en effet, dans ce côté projection en tackle, par exemple.
C'est ça, exactement. Tu vois, j'allais dire que Donald, mettons, lui, il fait un premier pas vers la gauche, tu as l'impression qu'il va t'attaquer vers ta gauche, mais en fait, hop, il se redirige, il part vers la droite. Donc, pour ça qu'il faut être très, très vif. Et ce n'est pas sa force première. Mais par contre, il a tout le reste. Il a tout le reste, il a l'intelligence de jeu, il a la puissance, il a une bonne technique, il joue bien bas sur ses appuis. Et puis voilà, en plus, il a cette polyvalence. Alors, c'est un guard, je le redis, c'est un guard, mais si tu as besoin, il peut aussi passer tackle. Donc, moi, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup et je le vois bien être un solide choix du deuxième tour.
Ouais, il a ce côté, je trouve, un petit peu Evan Neal, où en effet, quand il est un peu pris à défaut, quand il est un peu pris de vitesse justement par un vis-à-vis qui va justement avoir un espèce de double mouvement pour le feinter, il va avoir ce côté où en effet, d'un point de vue technique, ce n'est pas toujours parfait, mais il a en effet ce punch, encore une fois les fameuses mains violentes, qui lui permet justement de gagner du temps et de pouvoir se réajuster. Voilà, le côté, je pousse un petit peu mon vis-à-vis, ou en tout cas, j'ai cette capacité de réaction qui me permet derrière de pouvoir de repositionner un petit peu les mains et limiter la casse, entre guillemets, en tout cas, laisser un maximum de temps à mon quarterback. Et c'est vrai que ça, c'est quand même un avantage indéniable. Après, c'est vrai qu'il était beaucoup critiqué, et tu l'as dit, il a été repositionné critiqué. On a remis en question cette aptitude-là, et il a été changé de position en finale nationale. Mais il faut aussi rappeler que c'est lui qui a mis au supplice Aidan Hutchinson, notamment en demi-finale des playoffs. Aidan Hutchinson, qui on rappelle, fait partie des deux principaux candidats, allez, peut-être trois si on sort un quarterback surprise pour le statut numéro un de la draft à l'heure où on se parle. Oui, ça, encore une fois, ça en dit long. Je pense que globalement, on a quand même une classe notamment de garde qui est extrêmement performante sur le pass pro. Et Jamari Sawyer fait clairement partie de cette classe-là et je pense même est un des tout meilleurs dans cet exercice.
Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'il sera pris très haut, je pense. Parce que c'est important d'ouvrir des brèches pour le jeu au sol, mais le plus important sur la ligne offensive, ça reste quand même la protection du quarterback pour le jeu aérien. Et là-dessus, il est tout à fait qualifié.
Changement de profil peut-être pour parler de Zion Johnson, joueur de Boston College, joueur avec beaucoup d'expérience. Hein. Il me semble qu'il est senior, même super senior de mémoire. Hein. Ces fameux seniors à qui on a autorisé une année supplémentaire puisqu'ils ont participé à la saison 2020 marquée par la crise sanitaire. Et Zion Johnson, ça a été vraiment un point d'ancrage régulier dans une très bonne ligne offensive des Eagles. Mais du coup, on est peut-être plus sur un profil différent de Jamari Sawyer. On est peut-être plus sur un expert du jeu au sol, notamment.
Oui. Il est très, 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 très solide en run block. Ah ouais, là-dessus, il est vraiment très, très bon, que ce soit sur la ligne d'engagement pour ouvrir une brèche ou que ce soit lui aussi pour décrocher. Après, en protection, il est bon aussi. Hein. D'ailleurs, il a joué toute la saison 2020 comme tackle gauche. Donc, du coup, c'est pas pour rien. Je veux dire, s'il n'était pas bon en protection, il n'aurait pas pu occuper ce poste. Et cette année, en 2021, avec l'émergence de Tyler Vrabel, le fils de l'entraîneur des Titans, il a été repositionné à ce qui semble être son poste naturel, c'est-à-dire en tant que guard gauche. Et il a concédé, dans les deux cas, très peu de pression du quarterback. Donc, il est bon pour ouvrir les brèches pour le jeu au sol, mais il est bon aussi en protection. Alors moi, j'aime bien aussi ce joueur, et notamment son parcours, parce qu'il était très peu recruté à sa sortie du lycée. Et du coup, il a passé deux saisons au niveau FCS. Alors, on le rappelle, le premier universitaire qu'on appelle FBS, comprend 130 universités. Donc, alors évidemment, il y a des équipes au niveau FCS qui ne sont pas forcément plus mauvaises, qui n'auraient pas à rougir de certaines confrontations avec des universités FBS. Mais bon, l'un dans l'autre, si tu n'es pas pris dans les 130 universités, c'est que voilà, il n'était pas vraiment recruté. Ben, il s'est accroché, il était très bon en FCS et du coup, il a été recruté par quand même un bon programme. Je veux dire, Boston College, ce n'est pas la panacée, mais c'est facile dans le top 50 du niveau FBS. Mmh. Et il s'y est imposé. Il s'y est imposé à deux positions, que ce soit en tackle gauche, que ce soit en guard de gauche cette année. Donc, du coup, voilà, il a une grosse force de caractère. Lui aussi, c'est un gros travailleur et il a beaucoup de qualités. Et je suis vraiment impatient de le voir au Senior Bowl.
Oui, ça va être un profil extrêmement intéressant. Moi, c'est vrai que ce qui me plaît le plus avec ce joueur-là, en tout cas, ce qui me rassure d'un point de vue projection, c'est qu'il y a deux aspects qui ont l'air de sortir. C'est le côté technique. Encore une fois, je pense que d'un point de vue placement, notamment du bas du corps, c'est un joueur qui est assez précis là-dessus. Et c'est aussi en lien, je trouve, avec son intelligence de jeu. C'est qu'il il arrive toujours à trouver un moyen de se repérer, ou en tout cas de vraiment sentir d'où vient la menace. Et toujours d'avoir cette réactivité, je trouve, qui est extrêmement bénéfique pour les linemen offensifs. Après, il n'est peut-être pas aussi impressionnant que d'autres d'un point de vue athlétique, mais tu l'as dit, ça reste globalement complet. Et je pense qu'il y a moyen justement que cet aspect-là du jeu puisse être développé. Mais d'un point de vue, je trouve cérébral, si je peux parler ainsi. C'est un joueur qui part avec pas mal d'acquis et c'est aussi ce qui lui a permis, comme tu le disais, de pouvoir se balader un petit peu sur différents aspects de la ligne offensive des Eagles. Alors qu'on le répète, il y a quand même pas mal de candidats. Tu parlais de Tyler Vrabel, mais il y en a d'autres notamment qui sont très réputés et qui seront à suivre, notamment, je pense, dès l'année prochaine. Donc ouais, c'est ça qui me rassure pour Zion Johnson. Moi, je t'avoue, si je pars d'un côté projection, je me dis que ça peut être... c'est très, très anticipé encore à l'heure où on se parle. Mais ouais, on est peut-être aux alentours du troisième tour, en tout cas un petit début de troisième tour, à mon sens.
Ah ouais, moi, je le verrais même peut-être un petit peu avant. Tu vois, par exemple, là aussi, c'est des projections comme ça, c'est pour rigoler. Mais tu vois, par exemple... un choix de milieu de deuxième tour, genre les Steelers, par exemple, qui ont quand même besoin d'un guard offensif, ben, ça ne me choquerait pas.
Ah ouais, t'as raison, j'entends. Mais c'est vraiment, va falloir voir concrètement comment l'homogénéité du poste joue pour lui ou pas, parce qu'encore une fois, ça reste assez dévalué. Après, voilà, là, on a abordé quatre profils. À mon sens, c'est même quatre profils, je trouve, qui sont bien au-dessus de tous les autres qu'on va aborder dans le reste de l'émission. Mais ouais, je te rejoins, ouais, troisième, voire même un deuxième tour s'il plaît à une équipe. On termine ce tiers 2 avec notamment Emily Kior, garde d'Alabama, qui, lui, pour le coup, a été finaliste malheureux de la confrontation contre Georgia. Un petit peu mis en difficulté. D'ailleurs, on a eu deux visages un petit peu... symbole d'ailleurs des deux confrontations avec la grosse ligne défensive de Georgia. On a eu un bon visage d'Emily Kior, notamment en finale de conférence, un moins bon en finale de play-off. Comment tu juges le profil d'Ikior, qui en l'occurrence a été productif? Est-ce que d'un point de vue qualité physique et athlétique, tu t'y retrouves?
Ben, moi, c'est ça. Moi, Ikior, je l'aime bien. Mais pour moi, si je devais résumer une phrase, je dirais rien d'exceptionnel, mais solide. Voilà, c'est un joueur solide, il a un bon gabarit, bien compact, il a une bonne formation quand même, il vient d'Alabama, ce qui veut dire que non seulement il était bien formé par de bons coachs, mais c'est aussi qu'il a joué de gros matchs en jeu, et ça aussi c'est précieux avant d'aller à NFL, il a affronté de grosses oppositions, mais il n'a rien d'exceptionnel, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est le type de joueur qui peut être un bon complément dans une ligne offensive, quelqu'un qui peut être un titulaire, tu vois, mais ce n'est pas le joueur qui va faire la différence sur ta ligne. Si vraiment tu as un souci sur la ligne offensive et que tu as besoin de quelqu'un qui fait step up tout le monde, ben c'est, pour moi, ce n'est pas Emily Kior. Voilà. Je pense qu'il est fait pour jouer en zone, c'est-à-dire en s'associant vraiment avec les linemen qui sont autour de lui, avec le centre et le tackle, et puis pour ouvrir des brèches, des choses comme ça, même en protection. Parce que de lui tout seul, effectivement, au niveau, au niveau du gabarit, au niveau des qualités athlétiques, au niveau des quelques erreurs qu'il fait encore, je trouve qu'il n'est pas forcément encore abouti. Après, il faut voir aussi quelle position tu lui fais jouer à NFL, parce que c'est vrai qu'Alabama, il jouait en tant que guard, mais quelque part, quand je le regarde jouer, je me dis que ce gars-là, il ferait un bon centre. Et si tu le mets en centre, ça pourrait être quelque chose de bien. Donc, voilà. Moi, je l'aime bien, mais c'est vrai, comme tu disais, moins que les quatre qu'on a abordés déjà.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment là pour le coup, il y a d'autres. C'est un peu l'inverse de Zion Johnson, je trouve. C'est-à-dire que ouais, là, il y a quand même une certaine solidité. Et c'est vrai que je vois pas les fameuses intangibles entre guillemets qu'on aime bien aborder. Et le côté où on se dit ce joueur-là va être le point d'ancrage de notre ligne. Ça va être vraiment un bon complément, un joueur extrêmement besogneux et tu l'as dit, qui je pense dans un système de zone peut être extrêmement complémentaire. Mais ouais, faudra peut-être pas s'attendre. Enfin, en tout cas, dans le court terme, encore une fois, hein, après, il y a toujours moyen de se développer et que ça devienne une bonne surprise en fonction du coaching staff qui sera autour de lui. Mais oui, il y a moyen peut-être de. Enfin, en tout cas, ça va peut-être prendre un peu plus de temps que pour les autres, le fait de voir que. On va dire la force individuelle brute, si je peux parler de cette manière-là. Moi, je t'avoue qu'il est plus aux alentours d'un troisième, quatrième.
Oui, moi aussi, voilà, je le vois plus bas que ça. Ouais. Ça peut être les choix compensatoires du troisième tour, à la fin du troisième, ou alors en début de quatrième. Et donc voilà, ben, c'est quand même bon joueur, hein, il n'y a pas de problème.
Oui,
Mais
c'est
c'est.
ça, mais plus un projet, encore une fois.
Ouais, et puis le joueur de complément, voilà. Si vraiment tu as des soucis sur ta ligne offensive, c'est pas vers lui que tu vas te tourner en premier. Par contre, tu as besoin aussi de joueurs sur la ligne, donc pourquoi pas, ouais, quatrième tour, tu peux le prendre.
Voilà. Après, tout en parlais justement, il y a un côté polyvalence qui est non négligeable. Voilà,
Oui.
on l'a pas forcément vu autant que ça, autant que d'autres en tout cas, sur les différentes positions de la ligne. Mais tu l'as dit, il y a un profil intéressant pour jouer centre. Ça reste un tackle de formation sur le papier. Il y a potentiellement des choses à en faire. Après, il n'aura peut-être pas une aisance aussi flagrante quand il faudra être repositionné que pour ceux qu'on a abordés précédemment. On passe au tier 3 à présent avec des profils qui vont s'en rapprocher un petit peu. On enchaîne.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On va parler de Tyler Munford, senior, d'Ohio State, ancien tackle des Buckeyes, qui a longtemps joué tackle gauche d'ailleurs du côté de Columbus pour protéger notamment Justin Fields. Ça a changé cette saison, positionné majoritairement en tant que garde du côté d'Ohio State. Est-ce que pour toi, c'était déjà en tout cas pour préparer son avenir chez les pros?
Oui, bon, alors après, on sait que les universités ne sont pas là pour préparer les joueurs pour
C'est
les
aussi
pros.
pour ça que je te
Ouais,
pose la question, ouais.
non, non, ils s'en servent de la meilleure manière pour eux et c'est tout à fait normal, hein. Et d'ailleurs, on l'a vu cette année, donc, comme tu disais, il a commencé comme guard, ce qui paraît sa position naturelle, hein, mais à un moment donné, ils ont eu des soucis, notamment contre Michigan, il était rebasculé en tackle, histoire de sauver un petit peu les meubles. Mais alors, Tyler Munford, il a quelques similitudes, je trouve, avec Jamari Sawyer. Alors, pas du tout dans le gabarit, il est plus grand, il est plus élancé, etc. Mais la similitude dans le sens où, justement, lui, il offre aussi cette double possibilité de jouer guard, de jouer tackle. Moi, je pense qu'au niveau tackle, en NFL, il n'a pas la mobilité qu'il faut, il a pas, ça ne va pas être possible, donc ce sera majoritairement un guard. Mais par contre, comme il a quand même de l'expérience, et pas n'importe où, à Ohio State, il a joué des gros matchs en Big Ten, etc. Lui aussi, il pourra dépanner si tu as besoin d'un tackle, si tu as une blessure, etc. Il pourra dépanner. Après, c'est quand même un bon guard, il a de l'expérience, il a 4 saisons au Ohio State, il a concédé très très peu de pression, je le trouve très bon en protection. Après, au niveau run block, je le trouve un petit peu moins bon et peut-être que c'est lié aussi à son gabarit. Il est quand même plus grand, il est moins compact. C'est vrai que moi, au niveau du poste de guard, je préfère des joueurs beaucoup plus compacts que des joueurs élancés. Il a des bonnes qualités athlétiques, mais ce n'est pas non plus un monstre physique, ce n'est pas non plus un monstre de puissance. L'un dans l'autre, voilà, il a une bonne formation, il a de la polyvalence, il apportera des bonnes choses, mais je trouve que c'est quand même un joueur que tu peux prendre, à mon avis. À mon avis, c'est le samedi, quoi. Alors, un début de samedi, donc un quatrième tour, mais avant, je ne sais pas.
Ouais, j'avais plus aux alentours du quatrième, cinquième. En fait, c'est vrai, ce qui est intéressant avec Tyon Montford, et tu le disais, c'est que, en effet, on s'est rendu compte, malgré tout, assez vite, du côté d'Ohio State, qu'il était plus performant en termes de garde. Mais c'est vrai que, malheureusement, je dirais, c'est un profil qui peut apparaître assez complet, mais il y a beaucoup de choses à travailler dans beaucoup de domaines. T'en parlais, surtout la mobilité, je pense que c'est ce qui le dessert le plus. Et alors, est-ce que c'est ça qui l'amène à précipiter un petit peu sur d'autres choses? Mais c'est vrai que techniquement, tout n'est pas parfait non plus, même avec son repositionnement. Et en effet, voilà, il y a un gabarit qui peut être un peu, oui, qui peut malgré tout le desservir. Donc voilà, il y a quand même une grosse base de travail à mon sens. Faut pas, on peut se dire qu'avec ce joueur-là, il y a un projet intéressant, mais en tout cas, va vraiment falloir tomber, je pense, sur un coaching staff qui peut réussir à le développer sur pas mal de domaines. Après, voilà, d'un point de vue éthique, et ça a été un des capitaines, enfin en tout cas un des joueurs importants offensivement du côté d'Ohio State ces dernières années, et c'est pas un hasard. Donc voilà, c'est un homme de vestiaire, un joueur qui peut vraiment qui saura se remettre en question, je pense, qui saura bosser dur pour se développer. Mais voilà, la base sur laquelle on s'appuiera sera largement perfectible.
C'est ça. Moi, je trouve qu'il a le profil parfait si tu cherches un sixième homme. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que tu as déjà à peu près tes cinq gars de la ligne offensive, mais tu as besoin d'un sixième, c'est-à-dire quelqu'un qui… Le sixième, il faut qu'il soit polyvalent parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc, du coup, voilà, tu vas prendre un Tyler Montford en te disant, ben, avec les années, un ou deux ans, il va peut-être se développer et devenir un titulaire chez moi. Mais en attendant, je peux déjà le prendre pour être le sixième homme. Et si j'ai un problème de méforme ou de blessure au poste de guard ou au poste de tackle, eh ben, j'ai Tyler Montford. Il pourra jouer, il pourra me dépanner. Mais dans un premier temps, je le vois plus, voilà, une franchise qui va se dire, eh ben, j'ai besoin d'un sixième homme. Ouais. Les blessures, on le sait, ça arrive tout le temps en NFL, encore plus pour les big men comme ça. Donc, il t'en faut au moins six. Bon, tu en as toujours au moins sept ou huit, mais il te faut au moins un sixième solide. Et pour moi, c'est le sixième solide en NFL, en attendant, voire mieux, et plus si affinité, comme on dit.
Et on va terminer du coup par, dans ce tier 3, deux joueurs de Virginia Tech. Le premier, c'est Lessitus Smith, garde senior donc, de Virginia Tech. Un des capitaines là aussi de Vitek cette dernière saison, je crois un profil que tu aimes beaucoup, Jean-Michel.
Exactement, vraiment lui, je voulais en parler absolument, j'aime beaucoup. Il est puissant, il est agressif dans les duels, il a les mains violentes, je veux dire, voilà, pour moi c'est ça le joueur de ligne offensive, c'est le gars qui est dans les tranchées, il va au combat et puis il remporte les combats, quoi, surtout. C'est vraiment typiquement, c'est le warrior que tu as sur la ligne offensive devant toi, que ce soit en protection du quarterback pour repousser les assaillants ou que ce soit pour ouvrir des brèches. Moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, d'ailleurs Virginia Tech depuis 2 ans, ils font de très bonnes saisons au sol, encore plus en 2020, mais même en 2021 c'était très bon, et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a ces deux joueurs, et notamment Lessitus Smith. Moi, j'aime beaucoup, je veux dire, ce n'est pas le plus mobile, mais dans les petits espaces, il bouge bien, il reste avec l'assaillant, il utilise ses mains pour le garder à distance tel un boxeur. Il a vraiment toutes les qualités qu'il faut pour être titulaire en NFL pour moi. Moi franchement, si je veux prendre un guard et que je suis GM, je le prends avant Ekior, je le prends avant Munford. Vraiment, Lessitus Smith, c'est un joueur qui me séduit.
Jusqu'à quatrième tour, du coup, dans ces deux-là?
Ah, moi, je le verrais même avant. Hein. Mais bon, après,
d'accord.
Ça, c'est…
Non, mais
c'est
ça, tout… s'entend. Ouais, ouais. Ça s'entend.
Après, c'est toujours chacun ses goûts, mm-hmm. etc., etc. Hein. Mais moi, je sais que c'est un joueur… ouais. Même en fin de second tour, moi, je ne suis pas choqué du tout. Hein. Je trouve que c'est un très, très bon guard. Ouais, ouais.
Ouais, non, mais je te rejoins. C'est sûr qu'il y avait… Il y a ce côté qu'on retrouvait un petit peu dans Christian Darrisaux l'année dernière, sans forcément les aptitudes en pass pro… que pouvait avoir Darrisaux à l'époque, puisque forcément, il était pressenti en tant que tackle gauche. Mais il y avait en effet ce côté extrêmement agressif, extrêmement actif, notamment au duel qui pouvait le rendre intéressant. Et je parlais du bloc. Je ne suis pas sûr que tu l'aies rappelé, mais c'est un ancien tight end à la base, Lessitus Smith. Donc, il est quand même déjà arrivé, contrairement par exemple à un Linderbaum qui n'était pas forcément… qui était repositionné dans ce domaine-là, mais qui n'était pas dans le côté bloc à la base. Lui, c'est déjà quelque chose qu'il arrive à maîtriser. Alors après, ça reste perfectible malgré tout, en tout cas dans ce qu'on peut être amené à lui demander de faire. Mais voilà, si déjà il est capable, s'il est capable d'être actif et agressif sur les passes de course et qu'il a un background sur le lui permet notamment sur les phases de passe pro d'être efficace, il y a en effet, et ça c'est pour te rejoindre, un côté où on se dit à moyen terme, ça peut rapidement devenir un joueur intéressant, surtout s'il tombe dans la bonne équipe au bon moment.
Ah ouais, ben tu vois par exemple en fin de deuxième tour avec le choix 64 des Raiders puisqu'ils vont gagner le Super Bowl, ben Lessitus Smith ça pourrait être un bon choix, tu vois. Moi j'aime bien ce joueur, ouais. Pour Josh Jacobs, il serait content.
Bon, à surveiller en tout cas. Qu'est-ce que tu penses de Brock Hoffman? Alors ça, je t'avoue, c'est moi qui t'ai un petit peu tanné avec ça. Centre de Virginia Tech qui joue donc aux côtés de Lessitus Smith. Moi j'avoue que j'aime beaucoup. Je le trouve extrêmement rapide d'un point de vue exécution et du coup d'un point de vue passe pro. Je pense que ça peut être une très très bonne surprise. Là aussi, on est sur un côté assez agressif. Ce n'est pas le joueur le plus constant, je trouve, pour un Kaufmann. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'il a ce côté intéressant chez certains centres, c'est-à-dire vraiment être capable de passer rapidement à une phase d'agressivité post-snap. Ce fameux premier pas dont tu parlais tout à l'heure avec Linderbaum, moi, j'ai tendance à le retrouver un peu du côté de Brock Hoffman, même si tous les acquis autour restent là aussi largement perfectibles.
Oui. Mais après, il a beaucoup d'expérience et ça, c'est bien aussi pour un centre. Je veux dire, il a fait 2 saisons à Coastal Carolina, après il a fait 1 saison Redshirt, là il fait 2 saisons avec Virginia Tech. Et c'est important pour un centre. C'est vrai que souvent, quand les joueurs ils ont 5 saisons universitaires, on dit bon, la marge de progression elle est moindre. Mais là, on parle d'un centre. Un centre, c'est très bien qu'il ait beaucoup de vécu, beaucoup de situations de jeu. Et c'est vraiment le leader de la ligne offensive. Donc du coup, moi je le trouve très intelligent dans ses appels de jeu et puis dans sa façon de bouger. Quand c'est qu'il va offrir une prise à deux, un quand c'est qu'au contraire il va décrocher. Et puis oui, effectivement, c'est un bon athlète, il est rapide. Alors c'est vrai que moi avec Atec, j'avais mes yeux surtout sur les Situ Smith que j'aime beaucoup, mais c'est un très bon joueur, ouais, effectivement. Après, est-ce que c'est il est athlétique, est-ce que ça suffira pour la NFL? Oui, ça peut. Après, c'est pas celui-là qui m'impressionne le plus dans ce domaine, mais un centre, ce qu'il faut, c'est surtout que le joueur soit très intelligent, et c'est ce que je vois chez Hoffman.
Ouais, tout à fait. Il y a quelques petits soucis de flag également, ça c'est on peut pas l'occulter, que ce soit du côté de Coastal Carolina ou ces dernières années du côté de Virginia Tech, mais ça va aussi encore une fois, voilà, on sent qu'il peut être à l'aise dans le pass pro, mais faut se discipliner un petit peu plus et faut améliorer une technique très clairement qui est pas la même que certains de ses partenaires. Mais voilà, je vais pas répéter tout ce que tu as dit, mais ouais, il y a un côté athlétique, en tout cas une base athlétique qui est extrêmement intéressante. Moi, je t'avoue, je l'ai aux alentours du, j'ai peut-être fait un 4e tour dans ces eaux-là, mais voilà, encore une fois, tout dépend du béguin que peut avoir une équipe pour tel ou tel joueur. En l'occurrence, ça se joue dans un mouchoir de poche, on a pu sortir d'autres profils. Éventuellement, je ne sais pas si tu as d'autres noms en tête, éventuellement qu'on ne citera pas en sleeper, mais tu as quand même quelques joueurs éventuellement qui peuvent sortir du chapeau s'il y a besoin aux alentours des 4e ou 5e tours.
Oui, voilà, moi je le situais vers le 5e tour, quoi. Et entre 4e et 5e tour, oui, bien sûr, il y a lui, il y a Alec Lindstrom de Boston College encore, il y a Donovan West que j'aime bien, moi, d'Arizona State, il y a Jess MP aussi de BYU, il y a un joueur aussi que j'aime bien, moi, c'est Joshua Eziudu de North Carolina. Non, il y a quelques bons joueurs quand même, et oui, je pense que Brock Hoffman, ce sera plus ça, une fin de 4e, début de 5e, je pense, oui.
On va terminer peut-être avec le sleeper dans ce podcast La Main Intérieure et on prend la direction de Missouri pour parler de Michael Maietti, centre des Tigers et joueur extrêmement intéressant. Je crois qu'il a fini deuxième dans la deuxième équipe All Conference SEC, enfin, en tout cas la deuxième meilleure équipe de la conférence en 2021. Il s'appuie notamment sur une très bonne technique, une mobilité que je trouve pas inintéressante, ce qui le dessert peut-être un petit peu, Jean-Mi, je pense que, il me semble que c'est ce que tu m'avais dit d'ailleurs en off, c'est peut-être d'un point de vue gabarit et physique.
Ouais, voilà, il est un petit peu léger, moi, je trouve. Hein. Alors après, on l'a dit en début de podcast avec Linderbaum, hein, on voit Jason Kelce, mais si on parle de Jason Kelce, c'est parce que c'est une rareté aussi. Mm-hmm. Parce que voilà, on ne cite pas 5 ou 6 joueurs, non, on en cite un, c'est Kelce. Bradbury, je suis encore un petit peu limité, il faut voir, quoi. Mais généralement, les joueurs de ce gabarit, la position de centre, c'est quand même relativement rare. Et voilà, moi, c'est un petit peu le souci que j'ai avec lui. Alors après, il manque pas de puissance non plus, on le voit, hein, en situation de bloc. Il manque pas de puissance, mais son gabarit en NFL, quand même, c'est la NFL. Alors, OK, il était à Missouri, donc il a affronté des joueurs de la SEC qui sont aussi des futurs joueurs NFL et des bons gabarits. Mais c'est là-dessus que je mettrais peut-être sa limitation. Et puis, peut-être, tu vois, si on veut faire un clin d'œil à Alain, est-ce qu'on parle du T-Rex? Parce que du coup, voilà, c'est vrai que nous, on ne veut pas rentrer là-dedans, style le quarterback, il a des mains trop petites ou le lineman, il a des bras trop courts. Mais on sait très bien que les scouts, ils vont regarder ça aussi. Ce n'est pas pour rien qu'au Senior Bowl ou au Combine, ils sont mesurés, notamment l'envergure. Et Michael Maietti, j'ai peur qu'il n'ait pas assez d'envergure. Alors, pourquoi il mesure ça? Ben, c'est tout simplement l'allonge. C'est un petit peu comme un boxeur au niveau du duel. Et est-ce qu'il a l'allonge suffisante? Alors, l'allonge, le gabarit, ça fait un petit peu des limitations. Après, c'est un joueur très intelligent qui, lui aussi, a beaucoup d'expérience. Et on vient de le dire, pour le poste de centre, c'est important. Il avait passé 3 saisons en Rutgers. Il est allé en SEC avec Missouri. Il a montré toute sa qualité. Il est quand même athlétique. Il a un premier pas explosif. C'est un bon joueur. Après, voilà, il y a quelques limitations à voir.
Oui, on peut parler d'une bonne solution de là aussi de repli dans un premier temps, en espérant qu'il soit pleinement performant dans la foulée. Mais c'est vrai que je serais pas étonné peut-être que dans la troisième année, il soit capable de vraiment devenir un joueur qui s'intègre vraiment efficacement dans la rotation. Et c'est vraiment ce genre de profil qui, moi, pour moi, la principale interrogation concernant ce profil-là, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est le côté. Qu'est-ce que ça peut donner sur le jeu, enfin sur le pass pro, voilà. Parce qu'on a vu en effet sur la course qu'il avait quand même des bonnes aptitudes, je le répète, avec une bonne technique, une bonne mobilité. Ça a permis notamment à l'arrière entry qu'on a vu chez les Chargers cette année d'être performant ces dernières saisons. On a vu que Tyler Beidy également, qui sera peut-être à suivre chez les running backs également, a étonnamment performé, en tout cas avec des chiffres qui donnaient le tournis dans cette attaque de Missouri. Donc voilà, il a joué un grand rôle là-dedans. C'est plus sur le jeu à la passe, en effet, où il va falloir vraiment s'aguerrir. Et là, il va falloir voir en effet si le point de chute dans lequel il tombe lui est pleinement favorable. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur, je trouve, avec une bonne éthique et pas mal d'acquis foot dans son escarcelle avant de potentiellement arriver chez les pros. Ouais.
Oui, c'est ça. Lui aussi, il a commencé la saison. Il était déjà, il avait déjà une bonne cote. Il était, voilà, il était suivi. Et puis là, lui aussi, il a confirmé. Donc, comme tu dis, bonne éthique, bon travailleur. Constant, donc il pourrait se faire une place. Ouais.
Et combine, très important pour lui, là encore, on se répète par rapport à ça. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette classe de lineman intérieur. Je te remercie en tout cas, Jean-Mi, d'avoir été en ma compagnie. A priori, on se retrouve la semaine prochaine ou j'ai un doute?
Je serai avec Victor.
Tu seras avec Victor et ce sera toujours lineman, mais défensif cette fois.
Voilà, c'est ça, exactement.
Et je sais que Victor l'adore, donc j'ai hâte d'écouter cette émission. Aucune ironie de ma part, bien entendu. Mais voilà, c'est sûr qu'on n'aura pas une classe extrêmement glamour de la même défensive, je pense qu'on peut le dire tout de suite. Mais on n'aura pas pour autant des profils moins intéressants à l'orée de cette classe 2022. Merci encore Jean-Michel. Je rappelle pour ceux qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux que tu es sur Twitter, donc avec le pseudo Zappa 13007.
Non, 009.
009.
J'habite le 9e à Marseille, donc voilà.
Ah, c'est pardon, tout simple, je n'avais pas cette information. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs qu'un Marseillais tout à l'heure nous parle de l'homme du milieu. Pardon, c'est pour la petite parenthèse. Mais ouais, donc Zappa 13009, excuse-moi Jean-Mi. Yellow Radio, ça pour moi-même sur Twitter. Toute actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Et puis, on vous rappelle, donc les playoffs NFL, c'est ce week-end. Le débrief qui arrive dans quelques jours avec Alain et toute l'équipe. Salut à tous, très bonne semaine et très bon week-end de playoff. Ciao.
Ah oui, bon week-end de playoff à tous.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.